La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce troisième volet d'une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à demain à l'écrivain autrichien Stefan Zweig. Une émission placée aujourd'hui sous le double signe de l'inconscient et de la correspondance, les deux se liant chez Zweig par les nombreuses lettres qu'il a échangées avec le docteur Freud, comme nous le racontera en première partie Edmundo Gomez Mango, originaire d'Uruguay, où il a été chef de clinique psychiatrique, mais aussi enseignant de littérature, et qui a publié, notamment avec J.B. Pontalis, le livre Freud avec les écrivains, dont le projet consistait à montrer ce que les écrivains devaient à la psychanalyse. Et en deuxième partie, nous parlerons donc de la correspondance de Zweig. Pierre Dezus sera dans ce studio, il a traduit de nombreuses nouvelles de l'écrivain autrichien, ainsi donc que des courriers qu'il s'envoyait avec Arthur Schnitzler et Josef Roth. Ces deux correspondances étant publiées chez Rivage. Commençons donc avec cette question de l'inconscient, matière première d'un écrivain dont on sait qu'il a vécu de terribles souffrances psychiques qui se sont même accentuées au fur et à mesure de sa vie, alors que pourtant ses succès sur la scène littéraire se faisaient plus éclatants de livre en livre. Dernière nouvelle écrite avant son suicide, le joueur d'échecs est un bon exemple du pouvoir étrange que revêt le psychisme dans la littérature de Zweig. Cette nouvelle dans laquelle un prisonnier que ses geôliers torturent psychologiquement en lui interdisant notamment tout contact avec le monde et donc avec la lecture, et bien ce prisonnier réussit à dérober un livre. Et c'est avec un extrait de cette nouvelle, lue par Guillaume Gallienne, que s'ouvre aujourd'hui notre compagnie des auteurs.
Vous imaginez sans doute que j'ai immédiatement tiré le livre de sa cachette pour le contempler et le lire. Je n'en fis rien. Je voulais d'abord savourer toute la joie que me donnait la seule présence de ce livre. Et je retardais à dessein le moment de le voir, pour le plaisir excitant de rêver, en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût. Enfin, je ne contins plus mon désir et ma curiosité. Étendu sur mon lit, de façon que le gardien, s'il entrait tout à coup, ne puisse me surprendre, je tirai, en tremblant, le livre de sous ma ceinture. Au premier coup d'œil, je fus dépité et amèrement déçu. Ce livre que j'avais escamoté au prix des plus grands dangers, ce livre qui avait éveillé en moi de si brûlants espoirs, n'était qu'un manuel d'échecs, une collection de 150 parties jouées par des maîtres.
Bonjour Edmundo Gomez Mango.
Bonjour.
Vous avez en tête cette nouvelle, le joueur d'échecs ?
Oui, oui.
Vous vous souvenez que ce prisonnier va étudier les combinaisons de toutes les parties d'échecs qui se trouvent dans ce livre, qu'il va devenir imbattable à ce jeu, mais aussi frôler la folie à cause justement de cette occupation monomaniaque, puisqu'il n'a absolument que cela à faire. On est souvent monomaniaque dans les nouvelles de Zweig, Edmundo Gomez Mango.
Oui, c'est vrai, c'est un des motifs, dirais-je, préférés de Zweig, la passion dévastatrice, la passion qui possède véritablement, comme les démons possèdent les gens. Voilà que la passion possède les personnages de Zweig. Et ici, c'est véritablement extraordinaire, parce que je crois que c'est la dernière.
C'est la dernière avant son suicide, oui.
Et la passion, c'est le conflit représenté, incarné, disons, par le jeu d'échecs, par le jeu entre deux adversaires, comme une sorte de forme de conflit psychique où il met tout son pouvoir, tout son intensité, tout son affect pour échapper à la solitude, lui qui était emprisonné et qui après devient, ça serait long d'entrer dans le détail du récit, mais je trouve que c'est un récit formidable, peut-être un des plus formellement et par le fond aussi, le plus énigmatique et le plus passionnant de Zweig.
Et qu'est-ce que le psychiatre que vous êtes comprend de cette nouvelle-là? Et de son auteur, peut-être?
C'est extraordinaire, parce que ça, il y a d'un côté quelqu'un qui, sa passion, c'est les jeux des échecs, le champion des échecs, je ne me souviens pas exactement, c'est un Yougoslave, Chednovic, quelque chose comme ça, c'est son nom. Et il semblerait que dans son cerveau est totalement plat, disons, que la seule chose qui reluit dans ce cerveau-là, c'est l'or, une veste d'or qui est la passion pour les échecs.
Oui. C'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité,
exactement,
qui n'a aucun intérêt en fait. Il est simplement très fort aux échecs.
Le jeu des échecs, et il arrive, étant donné qu'il vient en plus de... d'un milieu très humble, il n'a pas fait beaucoup d'études, il était un garçon très, très introverti, et il se transforme, voilà, par hasard aussi, parce qu'il tombe sur... Il voit comment on joue aux échecs, deux adultes près de lui, et là, il met toute sa passion, tout son investissement affectif dans ce jeu, et il devient un champion d'échecs. Et ils se rencontrent par hasard dans un voyage,
au cours d'une croisière.
Vers Buenos Aires, je crois que ça va être une vérité biographique pour Zweig, parce qu'il va voyager beaucoup, il va voyager vers justement l'Amérique latine les dernières années de sa vie. On sait qu'il va mourir à Petrópolis, très près de Rio de Janeiro, où il va se quitter la vie avec sa femme. Mais là, c'est extraordinaire de voir le contraste entre ce jeune homme où la seule lumière, disons, la seule chose brillante qui le possède, c'est le jeu des échecs, et l'autre qui est un juif persécuté, un homme très intelligent, un avocat qui avait développé toute des intérêts culturels divers, et qui est pris par la Gestapo et qui est soumis donc à cette torture extraordinaire de l'isolement total, et qui, pour se défendre de ça, se retrouve dans le jeu d'échecs qu'il peut imaginer, recréer dans sa tête une sorte de vie psychique où le conflit est central, évidemment, et que où il investit tout ce que... Et je pense qu'aussi que c'est un moment où le Zweig lui-même avait commencé à jouer aux échecs en ce moment dans la traversée. C'est bien une écho biographique, je crois, assez proche des activités de Zweig en ce moment.
Donc la passion chez Zweig, c'est une passion dévorante, mais c'est surtout une passion qui détruit. Est-ce qu'il y a du positif dans la passion telle que décrite par Stefan Zweig?
Je ne sais pas si on peut parler de quelque chose de positif, parce que la passion est très, chez Zweig, est très destructrice, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un aspect, par exemple, si on pense à 24 heures dans la vie d'une femme, il y a un aspect, comment dirais-je, dans la passion, qui n'est pas seulement l'intensité du sentiment et de l'affectivité, mais qui s'accompagne aussi d'une sorte de lucidité, de connaissance du monde intérieur et de l'inconscient, n'est-ce pas? Bon, pas dit dans ces termes-là, évidemment. Mais par exemple, cette femme qui se laisse aller à une passion émotionnelle extraordinaire qui ravage sa vie, parce que bon, elle est une veuve et il vit une histoire d'amour avec quelqu'un de très jeune, plus jeune qu'elle, et d'une certaine façon elle reste après comme effacée par cette passion.
C'est-à-dire qu'elle ne peut plus l'oublier.
Elle ne peut plus reconstruire.
Et c'est d'ailleurs à la fin de sa vie qu'elle avoue
de l'aveu de la passion.
Cette passion. Mais cette passion, elle n'a rien finalement de tellement scandaleux. On se demande un petit peu, en relisant cette nouvelle, pourquoi est-ce que cette femme a tellement de difficultés à avouer, au fond, presque rien.
Oui, tout à fait. Mais là, c'est tout l'intérêt aussi de la passion comme thème chez Zweig, qui était de démolir, dirais-je, à la fois la morale hypocrite de l'époque, n'est-ce pas ? Il y avait là un aspect aussi de combat intellectuel et de combat contre une idéologie bourgeoise étouffante.
Alors on va écouter justement un extrait de 24 heures de la vie d'une femme, interprété ici par Zabou Breitman.
Vous me dispenserez de vous raconter ce qui se passa cette nuit-là, dans cette chambre. Je n'ai jamais oublié, n'oublierai aucune seconde de cette nuit. Car là, j'ai lutté avec un être humain pour sa vie. Oui, je le répète, dans ce combat, c'était une question de vie ou de mort. Chacun de mes nerfs sentait trop infailliblement que cet étranger, que cet homme, déjà à demi perdu, s'attachait à la dernière planche de salut avec toute l'ardeur et la passion de quelqu'un qui est mortellement menacé. Il s'accrochait à moi comme celui qui déjà sent sous lui l'abîme. Quant à moi, je déployais toutes mes ressources, tout ce qu'il y avait en moi, pour le sauver. On ne vit une heure pareille qu'une seule fois dans sa vie, et cela n'arrive qu'à une personne parmi des millions.
Alors on se rapproche tout doucement de Freud, Edmundo Gomez Mango, parce que Freud a reçu cette nouvelle que lui avait envoyée Zweig, et il a vu dans la fameuse scène des mains, que vous avez forcément en tête, c'est donc ce jeune homme qui joue au casino et dont Zweig décrit le mouvement des mains qui sont un peu comme des animaux qui courent comme ça sur le bord du plateau de jeu. Et Freud voyait là une scène de masturbation.
Oui. C'est-à-dire que le commentaire de Freud est très intéressant parce qu'il procède d'une façon assez particulière, évidemment, non ? Parce que bon, il a beaucoup aimé cette nouvelle. Il croit que c'est véritablement une sorte de petit chef-d'œuvre. Et il commence à se demander quelle est la source, de l'impact affectif qui produit chez le lecteur. Alors, il y a évidemment, il passe premièrement par la prose de Zweig, Freud. Il dit que c'est une prose magnifique, qui est une prose. Il insiste beaucoup sur. Parce que Freud était, bon, il a débuté sa carrière comme scientifique, comme quelqu'un qui faisait de la recherche scientifique. Et il a gardé toujours un goût de la réalité extrême. Et donc, par exemple, l'éloge qu'il fait de la prose de Zweig, c'est que elle est capable de s'approcher de l'objet psychique d'une façon intime, de s'appuyer sur l'objet psychique de telle façon. Il emploie une sorte de métaphore qui était très bizarre, qui est l'épigraphie, c'est-à-dire ce que font les archéologues avec les inscriptions qu'ils trouvent sur les pierres. Ils mettent une sorte de petite étoffe humide pour bien mouler et pour bien pouvoir reproduire sur la surface de ce qui serait la feuille de l'écrivain, disons, tous les reliefs et tous les détails qui sont inscrits dans la. Et donc, c'est ça ce qui fait, il le dit, c'est ça ce qui fascine de Freud. Même il dit ironiquement, peut-être aussi cette grande vertu peut être un défaut parce que l'objet psychique peut presque disparaître sous la magie de cette réincarnation qu'elle peut, que l'écrivain peut trouver dans la. Bon. Mais donc, il admire chez Zweig ça, le réalisme. C'est un réalisme visionnaire. Albert Béguin appelait Balzac visionnaire. C'est un réalisme qui n'est pas la copie de la réalité, mais qui est une vision tellement forte, tellement puissante du réel psychique qui peut devenir une vision.
Donc vous êtes d'accord avec l'analyse de Freud sur la scène des mains, si je comprends bien.
Ah oui, oui. Bon, la scène des mains est merveilleuse parce que bon, c'est la femme donc, qui, veuve depuis 2 ans, visite les casinos comme il le faisait avec son ami, son mari qui est mort. Et donc, il voit, il aimait voir la quantité des mains qui sont sur la table de la roulette, des joueurs. Et il les examine, il les regarde, il les décrit. Là, c'est évidemment à travers la parole du narrateur, n'est-ce pas ? Il y a toujours le récit enchâssé.
Enchâssé, toujours. Qui est une manière de se cacher, sans doute. Il doit y avoir une analyse psychanalytique à faire des écrivains qui font des récits enchâssés pour ne pas, finalement, se mettre en première ligne.
Et tout à coup, elle tombe sur des mains merveilleuses, magnifiques, qui sont donc après... C'est du jeune homme. Là, c'est la seule occasion qui apparaît dans la nouvelle où il va des mains au visage du jeune homme. Et c'est préciser les âges. C'est très important pour Freud parce que la femme a 40 et quelques, lui et le jeune homme 20 et quelques. C'est-à-dire, ça pouvait être la mère, un jeune homme, un enfant de cette femme. Et donc, mais avant de laisser la question des mains, pour moi, la main la plus merveilleuse qui apparaît dans la nouvelle, c'est la dernière main, la dernière figure de main, qui est celle de la femme anglaise quand elle finit son aveu au narrateur. Le narrateur veut parler et la femme lui dit, la femme anglaise qui a là centaines d'années, elle lui dit non. Pas du tout, rien, aucun mot, le silence. Et alors le narrateur prend la main de la femme fanée et l'embrasse. C'est une scène formidable, ça fait écho avec toutes les mains que le lecteur a dans sa tête, n'est-ce pas ? C'est très beau ça.
Alors, laissons de côté les mains quelques instants et allons voir du côté de Freud.
Oui.
Comment se sont-ils rencontrés et au fond, comment va évoluer leur relation ?
Ah oui, c'est le jeune Zweig, tout jeune. Il vient de publier un recueil de poèmes qu'il envoie à Freud. Freud, à peu près une vingtaine d'années... J.V. Pontalis, dans l'article qu'il écrit dans Freud avec les écrivains, il signale qu'il y a l'espace d'une génération entre les deux, n'est-ce pas ? Qu'il pouvait être le père de...
Comme la mère, et le fils, voilà.
Voilà, c'est ça. Bon, et donc c'est lui qui commence la relation, Zweig, qui lui adresse tous les livres. Voilà. Et pendant très longtemps, ils ne se rencontrent pas, c'est une relation comme ça, épistolaire, mais soutenue. Et il y a une sorte d'admiration extraordinaire de la part de Zweig pour Freud. C'est un des premiers grands écrivains européens qui voit la révolution de la pensée que signifie l'œuvre analytique de Freud.
Alors, admiration de Zweig pour Freud, peut-être aussi une forme d'admiration de Freud pour Zweig. On va en parler, enfin on va poser la question, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer quand on entend cette lettre, justement, de Freud adressée à Zweig.
Si je compare vos nouvelles avec les œuvres de l'homme auquel nous devons reconnaître l'émotion la plus profonde causée par l'inconscient refoulé, la différence est à votre avantage. Dostoïevski est un névrosé d'une grande perversité. Votre type est celui de l'observateur, de celui qui écoute et lutte de manière bienveillante et avec tendresse afin d'avancer dans la compréhension de l'inquiétante immensité. Vous n'êtes pas vous-même violent. Au lieu de vous demander pardon pour ce petit morceau de vivisection, je vous remercie et vous salue cordialement, Freud.
Alors Edmundo Gomez Mango, poursuivons sur la relation que ces deux hommes ont entretenue. Je le disais, une forme d'admiration qu'on peut entendre dans les lettres de l'aîné vers le plus jeune, mais c'est moins évident quand même que dans l'autre sens.
Oui, oui, parce que pour revenir un tout petit instant sur les 24 heures de la vie d'une femme, par exemple, ce que Freud admire, c'est comment ce qu'il appelle les Urmotiven, c'est-à-dire les motifs primitifs, les fantasmes archaïques, les plus primitifs de l'âme humaine, peuvent se transformer en figures visibles, lisibles dans la nouvelle de Freud, de Zweig.
Et donc, comment on peut concrétiser au fond ?
Pour concrétiser, c'est les mains. C'est bon, le représentant donc de la passion de l'onanisme, le jeu de l'enfant, l'onanisme, mais aussi qui passe par une chose qui est un petit peu plus compliquée parce que ça passe par l'envie, le désir du jeune d'être sauvé par la mère, d'être sauvé de cette passion de l'onanisme. Dans la nouvelle, c'est le jeu qui possède le jeune homme. Et c'est une femme qui pouvait être sa mère, qui il dépose sa confiance, enfin il croit que c'est elle qui peut le racheter, comme, dit Freud, c'est aussi une des fantasmes très fréquents de l'adolescent, être sauvé par sa mère de l'onanisme en tant qu'activité sexuelle infantile.
C'est-à-dire être sauvé de ses mauvais penchants. Donc, oui, voilà. Donc du coup, il y a, à travers cette analyse que vous faites, toute la société morale viennoise de l'époque de l'enfance de Stefan Zweig.
D'autant plus que, bon, évidemment, comme vous disiez auparavant, l'aveu de cette femme, c'est une aventure amoureuse, sexuelle, avec un homme plus jeune qu'elle, mais il n'y a rien de tragique, rien de dramatique. Mais pour l'époque, c'était comme ça. La preuve, c'est cette scène formidable à l'hôtel de la Riviera, où tous les membres d'une collectivité, petite collectivité de touristes de cette époque, commentent ce fait comme si c'était le scandale de l'été, disons, la fuite d'une femme qui avait fui avec un homme et que ça fait penser. C'est pour cela que la femme anglaise raconte après sa propre histoire de passion qui avait duré aussi 24 heures, comme celle qui fait le début du récit.
Alors, Freud et Zweig, comment évolue leur relation ?
La relation évolue toujours par lettres, des lettres très, très émouvantes. Et surtout, à la fin, ils sont tous les deux, se rencontrent à Londres. Premièrement, s'exile Stefan Zweig quelques années avant, et après vient Freud. Et il y a dans une lettre une phrase très émouvante de Freud qui dit « J'ai reçu aujourd'hui un grand ami qui revient de l'Aqueronte, qui a traversé l'Aqueronte, parce qu'il vient de Vienne. » Et il prévoit évidemment que c'est comme sortir de l'enfer. Il s'est sauvé de l'enfer, de la destruction nazie. Et là, c'est aussi très émouvant parce que le vieux Freud, qui maintenait toujours une distance, même avec les interlocuteurs qu'il aimait, Zweig raconte que derrière les lunettes, il voit une tendresse qu'il ne percevait pas avant. Et même des gestes comme par exemple le vieux Freud qui passe son bras sur les épaules du jeune Zweig à l'époque. Et donc voilà que la relation se rend un petit peu plus... Et il l'accompagne jusqu'à la fin, c'est lui, Zweig, il y a des pages de son journal incroyables, formidables, qu'il décrit quand il apprend la mort de Freud par la radio, comment il fait pour arriver au crématoire où va se produire l'incinération. Et c'est lui, en tant que grand écrivain européen, qui fait la locution mortuaire, les adieux à Freud.
Alors ce rapport de maître à élève, on le retrouve aussi par exemple dans La confusion des sentiments, oui. Nouvelle très psychanalytique aussi, oui. On ne peut évidemment pas faire un parallèle total puisque dans La confusion des sentiments, le maître est amoureux oui. de l'élève, mais il y a tout de même chez Zweig une recherche très fréquente d'un père, d'un maître qu'il pourrait admirer totalement.
Oui. Et surtout dans cette nouvelle aussi, c'est le tabou de l'homosexualité dénoncé dans ce roman. Et dans la lettre de Freud, il y a des mentionné et commenté par Juvet Pontalis. Il y a des analyses très profondes de Freud, très 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 éclairantes sur l'homosexualité et l'amour sexuel entre hommes et l'amour sexuel hétérosexuel entre l'homme et la femme, qui sont évidemment d'une modernité extraordinaire et qui ouvrent véritablement un espace nouveau à la sexualité dans les relations des hommes et des femmes.
Alors on se pose tout de même la question de savoir pourquoi est-ce que Zweig ne s'est pas tout simplement allongé sur le divan de Sigmund, puisqu'il semblait en avoir besoin quand même.
Bon, là c'est un peu l'ambivalence entre Freud et les écrivains, et les écrivains avec Freud, parce que c'est vrai, par exemple, que bon, Zweig écrit un long travail qui n'a pas plu beaucoup à Freud, parce qu'il a inséré son travail sur Sigmund Freud dans la guérison de l'esprit, où il avait mis Mesmer, où il avait mis Edith Badker, qui était la fondatrice de la science christiane.
Donc Freud donc était un peu blessé. Un petit peu tout, Zweig, ici.
Voilà, c'est ça. Il a mis Freud un peu dans une série qu'il n'aimait pas beaucoup.
Ça veut dire qu'il n'avait pas bien compris Freud, alors.
Mais alors, justement,
s'il le mettait en parallèle avec des gens qui n'avaient rien à voir avec son travail.
Là, je voulais parler justement de l'ambivalence de l'écrivain, qu'il admirait Freud. Il parlait de l'œuvre de Freud comme si c'était lui aussi un analyste, mais qu'il n'avait jamais passé par un divan. Il aurait pu faire cette tentative, mais il n'a pas voulu, il n'a pas pu, je ne sais pas. Et Freud, que je sache, jamais lui a évidemment proposé ou indiqué. Ce n'était pas son rôle, n'est-ce pas? Mais il y a un autre aspect de l'ambivalence aussi qui est assez quand même, pour moi, assez extraordinaire, c'est que, par exemple, dans cet écrit, Stefan Zweig parle de la prose de Freud, mais ne le voit pas comme un grand écrivain. Et à la même époque, il y avait eu des articles déjà qui parlaient de Freud comme un grand écrivain de la langue allemande. Et là, malgré qu'il dit, Zweig, que la prose de Freud a des formules qui sont formidables, qui peuvent aller très fond, très, très profond, qui sont inoubliables par la qualité de la prose, etc., quand même, il ne développe pas beaucoup cet aspect. C'est surtout pour lui, évidemment, c'est aussi comme ça, dans la réalité. C'est un grand penseur, mais il ne voit pas la grande puissance d'écrivain qu'il y a dans l'œuvre de Freud qui a été connue, qui a gagné, qui a conquis, disons, l'humanité à travers l'écrit.
Et Freud, à l'inverse, considérait qu'au fond, les écrivains étaient peut-être plus forts pour comprendre l'inconscient que les médecins, les psychanalystes aussi peut-être. Je ne sais pas s'il aurait été jusqu'à dire cela, mais en tout cas, pour lui, l'écriture romanesque, c'était un vecteur très puissant de compréhension de l'esprit. Et il admirait pour cela les écrivains.
Exactement. Et par exemple, dans la deuxième préface de l'interprétation des rêves, que s'était vendu très très peu, la première édition, il dit que les seuls lecteurs ont été ses disciples à lui, qui étaient un peu nombreux, et les hommes de culture et les écrivains. C'était véritablement ce qu'il disait Freud à l'époque. Mais voilà l'ambivalence aussi de Freud. Quand quelqu'un, écrivain, fait une étude sérieuse sur lui, il n'est pas très content parce qu'il dit que c'est un profane, au fond. Et quand même, ce sont les profanes, les écrivains, qui ont reçu, premièrement, son œuvre comme la plus légitime, la plus grande qu'on pouvait écrire à ce moment sur le destin de l'humanité et les mystères de l'âme, comme disaient les écrivains.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et vous restez avec nous, Edmundo Gomez-Mango. Dans un instant, nous allons accueillir le traducteur Pierre Dezus. Mais avant tout, laissez-moi d'abord vous présenter Olivier Mauny, qui, tel Stefan Zweig, le voyageur, a pris le train pour venir nous rencontrer aujourd'hui au studio 108 en provenance de Bordeaux. Bonjour Olivier.
Oui, de Bordeaux, pas de Pétropolis.
Non, malheureusement, vous ne seriez pas venu en train.
Absolument. Bonjour Mathieu.
Alors, pas de psychanalyse en ce qui vous concerne aujourd'hui. Vous allez nous parler de l'été.
Je vais vous parler de l'été.
Qui s'achève, malheureusement.
Nonobstant le plaisir que j'ai à vous retrouver aujourd'hui, cette chronique aura donc peut-être un arrière-goût de regret, celui des choses finissantes, en l'occurrence des vacances bien sûr, l'enfance aussi comme on va le voir, l'été donc, dont on ne se résout pas à la prochaine disparition. Cet été, deuil éclatant du quotidien et partant naturellement romanesque, qui est le climat de quelques-unes des plus précieuses œuvres littéraires de ce temps, depuis l'admirable Les Locataires de l'été de Charles Simons, jusqu'à plus récemment le non moins admirable Un été de Vincent Alma Dross, prix Sagan 2015. Or, voici que cet automne, cette fois-ci, ne vient pas déroger à cette règle d'un été indien du roman, puisque pour moi, deux des livres les plus puissants de cette rentrée, une nouveauté et une réédition particulièrement bienvenue, sacrifient à cette célébration de la belle saison.
Alors, ne nous faites pas davantage languir. Quels sont ces livres, Olivier ?
Alors le premier, la réédition donc, est un livre de Jean Cayrol, Les Enfants Pillards, publié à l'enseigne d'une nouvelle et très exigeante maison d'édition bordelaise, L'Éveilleur. On a peut-être, et c'est très injuste, un peu oublié quel précieux écrivain et quel grand éditeur aussi à l'enseigne des éditions du Seuil était Jean Cayrol. De lui ne reste le plus souvent dans la mémoire collective que l'écriture avec un aréné de Nuit et brouillard. Les Enfants Pillards est une œuvre tardive, celle d'un homme qui, parvenu au soir de sa vie et de son œuvre, se retourne vers ce qui les a toutes les deux fondées. Un peu comme Mauriac, dont vous allez parler, je crois, prochainement.
Alors Mauriac, dont nous, avec qui nous allons enregistrer, enfin pas avec qui, mais nous allons enregistrer la semaine prochaine en public des émissions sur François Mauriac. C'est vendredi et samedi au domaine de Malaga. Vous pouvez venir si vous le souhaitez et ce sera diffusé à l'antenne la semaine donc d'après. Pas lundi prochain, mais lundi d'après.
Donc Mauriac, qui était le maître de Cayrol, qui fit ça avec un adolescent d'autrefois, l'un de ses derniers livres, si ce n'est le dernier d'ailleurs,
ensuite il y en a un, mais qui est inachevé.
Absolument. Se retournant vers son enfance bordelaise, bien Cayrol, presque septuagénaire, s'en revient, lui, quelques années plus tard, vers son Rosebud à lui, les grandes vacances de l'enfance, quelque part vers Lacano, ses plages et ses villas, dans l'absence des grandes personnes, le temps d'un été, mais pas n'importe quel été, Mathieu, celui de 1918. Le monde en miniature des enfants ne doit rien à celui des parents, en termes de cruauté au moins. Il est parcouru des mêmes lignes de tension, des mêmes hiérarchies plus ou moins souterraines. Le meurtre y est aussi une procédure d'assimilation. La rumeur est un climat quotidien. Là, entre plage et océan, on croit distinguer des sous-marins, des espions, des aviateurs fous viennent se noyer. Bref, ces jeux interdits seront ceux que fuira et recherchera dans le même temps toute sa vie Cayrol. Un exemple, dans Les Enfants Pillards, son personnage est surnommé Colibri. En réalité, ce surnom lui fut effectivement donné, mais pas sur les plages de Lacano de son enfance, mais à Mauthausen, 30 ans plus tard, dans ce camp dont il ne sortira jamais vraiment, pas plus donc que des étés de l'enfance.
Été de l'enfance là aussi, mais changement de décor tout de même avec votre second coup de cœur, Olivier.
C'est vrai, on passe de l'Atlantique à la Méditerranée, de Lacano à Majorque, mais il y a tout de même bien des correspondances secrètes entre le roman de Cayrol et l'admirable Solstice de José Carlos Llop. Là aussi, vous l'avez dit Mathieu, il sera question des étés de l'enfance, mais de ceux des années 60, passés pour le narrateur dans un fort militaire au-dessus de la mer et défendant l'île dont son père assure le commandement. Dans ce désert des Tartares, qui n'en est pas vraiment un, entre pêche, lecture et soirées prolongées, la rumeur du monde parvient à la fois comme étouffée, mais aussi comme protégée de la censure franquiste par son irrédentisme ilien. Majorque est une île, l'enfance aussi finalement. José Carlos Llop se souvient de ce monde qui avait confusément conscience de basculer, ses éclats de mémoire magnifiques sont comme autant de blessures de beauté. Il est plus que temps de faire toute la place qu'il mérite à cet écrivain dont c'est déjà le 7e livre, traduit en français, poète et diariste, cosmopolite autant que majorquin, grand connaisseur de notre littérature, de Bernard Franck à Modiano. En conclusion, les livres de Cayrol, de Llop, ne sont pas qu'une façon élégante de poursuivre vaille que vaille l'enchantement de l'été. Ils illustrent à leur façon, Rimbaud et son fameux « Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil ». On ne saurait mieux dire, on ne saurait mieux lire, Mathieu.
Merci beaucoup Olivier, Moni, et à la semaine prochaine. Thank you. Et dans cette deuxième partie de la Compagnie des auteurs qui s'ouvre à présent, nous allons parler, nous vous l'avions promis, de la correspondance de Zweig. On a vu qu'elle était fournie avec Freud, mais elle est également très importante avec des écrivains comme Schnitzler et Joseph Roth. Pierre Deus, qui est avec nous, a justement traduit et présenté ces deux correspondances. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, puisque nous parlions de Freud dans la première partie de cette émission, quelle est, vous, votre vision de leur rapport, de leur relation, mais cette fois peut-être à travers les correspondances, justement, qui vous intéressent en particulier?
Oui, j'entendais la conversation tout à l'heure et vous posiez la question « Pourquoi s'est-il pas allongé sur le divan ?» Et je me disais « Heureusement ». Parce que s'il s'était allongé sur le divan, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette littérature.
Et, alors ça, c'est pas très gentil pour lui, parce qu'au fond, il a quand même beaucoup souffert.
Oui, mais
ça l'aurait peut-être soulagé.
C'est pas parce qu'on souffre qu'on s'allonge.
C'est Romain Rolland qui avait écrit au détour d'une phrase que Zweig était un chasseur d'âmes. Ça vous parle, cette expression chasseur d'âmes pour lui?
Oui, bien sûr. C'est une jolie formule. C'est une formule qui renvoie à Freud, parce que Freud, en allemand, parle de... En français, on dit souvent psyché. En allemand, Freud emploie souvent le mot « Seele », qui veut dire « l'âme ». Les Français répugnent un peu à utiliser ce mot qui est peut-être un peu connoté de façon religieuse. Ils préfèrent directement le mot grec. Mais c'est tout à fait juste. Et ce que fait Zweig, c'est effectivement sonder les profondeurs de ce que l'on peut appeler, chez Freud aussi, l'âme.
Parce que ce qui fait l'intérêt de Zweig, c'est au fond la dualité. Vous parlez dans l'une des préfaces à vos correspondances, aux correspondances que vous avez éditées, vous parlez de la dualité de Zweig en lien avec la dualité de l'Autriche-Hongrie.
C'est toute une période, l'Autriche-Hongrie à ce moment-là, ce que Claudio Magris appelle la Mitteleuropa. Cette période charnière entre le 19e et 20e siècle, c'est une période très trouble. C'est une période, Hofmannsthal disait, c'est une période d'indécision et d'ambiguïté. C'est une période ambivalente aussi. On en a parlé avec la situation des femmes, parce que d'une certaine façon, il y a une nouvelle liberté pour les femmes. Et d'un autre côté, elles sont quand même soumises à la morale bourgeoise, qui est très hypocrite. Et Karl Kraus s'est fait un plaisir de dénoncer cette morale hypocrite, notamment dans les attaques contre la fameuse Neue Freie Presse, hein, qui passait pour un journal libéral à Vienne, qui était dirigé par Herzl, que Zweig connaissait bien, puisque c'est dans la Neue Freie Presse qu'il a commencé. Mais c'était toujours un monde ambivalent, un monde entre le clair et la lumière, et ça correspondait, je crois bien, à la psychologie de Zweig, qui lui aussi est un personnage ambivalent.
Voilà, ça nous fait une excellente transition avec le sujet précédent. Alors, entrons un petit peu dans le vif du sujet, Pierre Deus, la correspondance. D'abord, comment pourrait-on la replacer dans son œuvre? Est-ce qu'elle a une place importante pour lui, ou est-ce que cette correspondance-là avait un but uniquement pratique, de communication? Est-ce que, par exemple, il pensait qu'elle serait éditée par la suite?
S'il pensait qu'elle serait éditée, je n'en sais rien. Je sais que Zweig excellait dans les relations et les relations publiques. Erika Thunor a dit à un moment dans un article que ça aurait été un excellent ambassadeur. C'était quelqu'un qui avait un carnet d'adresses phénoménal. Il aimait les gens, il aimait séduire, il aimait mettre en relation les gens qu'il avait séduits, il aimait être les amis d'amis.
Et elle a présenté Romain Rolland à Freud, par exemple.
Par exemple, oui. Et il créait tout un réseau au départ européen. Je pense qu'il l'a fait à la fois parce que il s'est dit que ça pouvait lui servir, je crois qu'il faut le dire, et à la fois aussi parce que ça lui plaisait. C'était dans son caractère d'être bien avec les gens. C'est pas quelqu'un qui aimait le conflit. Il aimait séduire. Et puis ça a sûrement pu le faire avancer dans sa réflexion. On le voit notamment dans la correspondance avec Roth, par exemple, Joseph Roth.
Mais son style, moins travaillé, évidemment, dans les correspondances, moins fleuri, moins kitsch, on l'a dit dans les autres épisodes de cette série, finalement, on devient presque plus fluide. Comment est-ce que vous qualifieriez ce style de correspondance ?
C'est vrai que le style de sa correspondance est moins travaillé. Est-ce que c'est plus facile à traduire ? Là, je parle en tant que traducteur, c'est pas dit.
Qu'est-ce qui est difficile
à traduire mm-hmm. chez Zweig, Zweig n'écrit pas forcément des phrases longues comme on peut le dire parfois. Il y a des phrases très courtes et des phrases très longues qui alternent. Si je prends par exemple la première nouvelle qui s'appelle Rêve oublié, qui fait référence à l'été, la première phrase fait une demi-ligne, la deuxième fait quatre, la troisième fait cinq. Ensuite, 6. Voilà. Ce qui est difficile, mais très beau à traduire dans ces nouvelles, c'est les méandres et les anamorphoses qui essayent de rentrer de façon indirecte dans la psyché des gens. Il le fait un peu moins parce que le but n'est pas le même. Il ne fait plus de psychologie. Il dit ce qu'il a fait. Il parle de ses éditeurs, de ses auteurs. Il parle de la façon dont il peut aider les auteurs, parce qu'il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'on peut dire beaucoup de choses contre Zweig, son style kitsch par exemple, peut-être. J'ai entendu dire que c'était de la littérature de gare. Si c'était de la littérature de gare, je crois que les gares devraient être très belles si ça avait...
Non, mais c'est parce qu'il aimait les voyages, en fait, c'est ça qu'on
voilà.
veut dire.
C'est juste ce que vous dites, parce que c'était un grand nomade. Il était tout le temps en train de bouger. C'est quelqu'un qui était à une très belle maison, mais qui était un très grand nomade. Alors que
qui fuyait peut-être quelque chose. Ça, on peut se poser aussi cette question-là.
C'est bien possible, oui. Et pour revenir donc à sa correspondance, entre autres, dans la correspondance de Roth, ce qui est différent de la correspondance avec Schnitzler, où il s'adresse à Schnitzler avec beaucoup de courtoisie et beaucoup de déférence. Roth est son cadet de 13 années. Il lui prodigue des conseils, il lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, il l'aide, il lui dit qu'il faut moins boire, tout simplement, il faut faire une cure.
Alors justement, là, vous parlez de la correspondance avec Schnitzler et du rapport aussi très déséquilibré, en fait, entre les deux. Schnitzler a 45 ans et Zweig en a 26 quand il commence à s'écrire. Et on retrouve un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Edmundo Gomez-Mango à propos de Freud. C'est-à-dire qu'il aime converser, écrire à des personnes qui sont ses aînés.
Oui, il aime admirer. Dans la correspondance de Romain Rolland, enfin, il y a le troisième volume qui va paraître en ce moment, il parle toujours de Romain Rolland comme son maître vénéré. Mmh. Et Romain Rolland lui dit à un moment, ça suffit, arrêtez. Mais il n'arrête pas.
Qu'est-ce que le psychanalyste, psychiatre que vous êtes, Edmundo Gomez-Mango, peut comprendre de ce qu'on vient de dire là, de l'attitude de Zweig par rapport à ses correspondants, et notamment à ses correspondants plus âgés ?
Oui, bon, premièrement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit de Zweig comme quelqu'un qui a une plasticité psychique extraordinaire, n'est-ce pas ? Son intérêt est énorme pour les gens. Bon, Freud dit à un certain moment, de façon ironique, je sais bien que je ne suis pas l'homme le plus intéressant sur lequel a écrit Zweig. Et il énumère les biographies nombreuses, mais au moins je suis le seul vivant. Dit Freud pour comme hommage à Zweig. Mais je pense que c'est comme ça. C'est un homme que je ressens comme très jeune, comme jeune Zweig, hein, pendant tout un enthousiasme juvénile qui l'emplit, quoi, et qui lui fait comme ça admirer, aller toujours dans l'exaltation des sentiments, Et je trouve aussi qu'il a eu quand même une sensibilité beaucoup plus aiguë pour voir venir le désastre que Freud, par exemple.
Oui, il n'est pas le plus lucide. S'il y a quelqu'un qui est lucide, c'est Joseph Roth, qui est d'une lucidité extraordinaire. Oui. Le jour où Hitler a pris le pouvoir, Roth est parti.
On va justement en parler. Donc Pierre de Zus, vous avez traduit la correspondance Stefan Zweig-Joseph Roth. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelles ont été leurs relations? Ce sont deux personnalités diamétralement opposées.
Opposées dans la mesure de par leur origine déjà. Roth est un juif d'un milieu assez modeste, qui est né en Galicie, alors que Zweig est plutôt un grand bourgeois de Vienne.
Juif également, cela juif, dit, juif ce qui pourrait les rapprocher.
Oui, même si pour l'un ou pour l'autre, le judaïsme n'a pas joué un rôle prépondérant et n'ont jamais mis en avant leur religion. Et entre parenthèses, on peut dire par exemple que Zweig était contre le sionisme. Il considérait que le judaïsme devait rester une diaspora. Et c'est par là, c'était là sa grandeur.
Il avait rencontré Herz.
Oui, il avait rencontré. Ben, c'était le directeur justement de la Neue Freie Presse qui, en 1904, si mes souvenirs sont bons, lui a donné sa chance pour publier des nouvelles dans ce journal. Donc, il s'appréciait bien sûr, mais il a toujours été contre le sionisme. Il le dit dans le livre, dans la correspondance avec Roth. Puis c'était des caractères très différents aussi. Je vous ai dit que c'était un séducteur. Zweig était un séducteur. Roth, c'était un bougon, rentre dedans, ronchon. Y en a un qui faisait attention à sa mise, jusqu'à l'extrême, avoir des tenues presque ridicules. Je pense à cette fameuse photo où il est en Bermuda blanc dans son jardin, Kapuzinerberg. Roth s'en moquait. Et on a sur la correspondance des deux la seule photo à Ostende où on les voit ensemble. On voit déjà la différence dans le vêtement. On a le dandy et puis on a l'écrivain plus populaire qui a demandé, au début, c'est lui qui est admiratif de Zweig. Peut-être pas la première fois, mais c'est Zweig qui était considéré comme le maître, alors que jusqu'à présent, il aimait toujours vénérer des maîtres. Et cette relation s'est développée.
Elle s'est inversée, du coup.
Elle s'est un peu inversée. Elle s'est inversée au début, c'est-à-dire que Roth demandait des conseils, et puis même s'il ne demandait pas des conseils, Stefan Zweig lui en donnait, que ce soit au niveau littéraire ou au niveau comment gérer sa vie ou sur sa vie amoureuse, parce que Roth a une vie amoureuse un peu, disons, triste. La première femme était schizophrène, il s'est occupé d'elle, ça coûtait beaucoup d'argent, il travaillait comme un fou pour gagner de l'argent. Finalement, elle est morte dans un camp de concentration en 1940, un an après la mort de Roth. Mais petit à petit, cette relation de maître à élève s'est inversée au moment où les choses sont devenues dramatiques en Europe. Et Zweig n'a pas bien vu ce qui se profilait. Il a par exemple eu des mots enthousiastes pour la jeunesse qui avait voté pour les nazis. Et aussi bien Romain Rolland, dans sa correspondance que Roth, l'ont dit, mais vous faites fausse route. Vous, ils sont toujours vous voyez. Ils vous voyaient Freud, tous ces correspondants, ils les vous voyaient. Que ce soit Romain Rolland, Roth, etc. Ils ne sont jamais dit tu. Et c'est Roth qui lui a montré que le maître faisait fausse route et qu'il fallait faire attention. L'Allemagne court à sa catastrophe, alors que Zweig disait les nazis vont se manger entre eux.
La question juive ne se résoudra hélas que par la dissolution de toutes les différences dans la centrifugeuse qui est devenue l'Europe. Ça, c'est une phrase de Stefan Zweig.
Oui, je pense que c'est une contradiction, même un non-sens, de dire que le judaïsme va se dissoudre. Parce que le judaïsme vit justement de la résistance et s'oppose à la dissolution. Et l'histoire l'a montré.
Mais donc il y a une naïveté sur ce sujet-là de Stefan Zweig que Roth, précisément, a essayé de dissoudre, a essayé d'éclairer, mais il n'est pas parvenu.
Non, il n'est pas parvenu. La situation de Roth vis-à-vis du judaïsme est aussi étrange parce qu'il s'est converti au christianisme. Et quand Roth est mort, on n'a pas su bien où l'enterrer. Enterré dans un cimetière juif, dans un cimetière catholique, on ne savait pas bien. Finalement, Roth, son dernier espoir contre le drame historique, c'était une reconstruction autour de l'empereur, qui était une vision très romantique des choses. La dissolution du judaïsme est, je pense, une erreur de jugement de Zweig, qui vient peut-être simplement de son tempérament conciliant, disant évitons le conflit, et le meilleur moyen d'éviter le conflit, c'est le compromis, c'est de glisser. Mmh. Il y a des moments où il faut éviter les compromis, et Klaus Mann, avec qui il a eu une correspondance aussi, lui a dit très nettement, il faut arrêter, il y a des moments où on ne peut plus pactiser avec des gens comme ça.
Et là, je me retourne vers vous, Edmundo Gomez-Mango, cette façon d'éviter toujours le conflit, est-ce qu'on ne peut pas avoir là-dessus une lecture psychanalytique de Stefan Zweig?
Ça, je n'oserais pas le faire parce que je ne possède pas le matériel.
Vous ne l'avez pas analysé.
Suffisant, oui. Mais c'est vrai, oui, que celui, bon, c'est pour cela qu'il y a cette relation aussi très admirative vis-à-vis de Romain Rolland, non? Au début, au moins, le pacifisme, non? De là. Mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu se déclarer, par exemple, à faire des déclarations, je crois, à Zweig, nettes, concrètes, contre le nazisme. Il disait qu'il luttait contre le nazisme, par exemple, en parlant d'Erasme. Pour lui, c'était une façon d'évoquer Erasme, ou évoquer, je me souviens pas exactement le nom, à l'époque où Calvin...
Castiglione.
Voilà, c'est ça. Il évoque des héros comme ça de la résistance contre des tyrannies.
Mais c'est une résistance en chambre, c'est ça que vous dites?
C'est ça. Et parfois, dans les lettres, oui, il apparaît des choses évidemment très dures sur le nazisme. Mais parfois, il dit aussi, oui, le crime horrible qu'avait fait Hitler contre la littérature. Et c'est vrai aussi, n'est-ce pas? Il a connu quand même les autodafés, comme les livres.
Alors, il paraît que Zweig était pris comme étant le parangon de ce qu'est un juif, et que donc, il y avait presque des images de lui qui étaient distribuées pour dire, voilà, à quoi ressemble un juif.
Ah, je connaissais pas ce détail, mais la bêtise nazie est telle que c'est bien possible, oui.
Alors une autre chose, et on terminera là-dessus, que Roth avait vu et que Zweig n'avait pas vu, c'est évidemment le stalinisme et ses dangers. Qui est-ce qui est lucide? Est-ce que c'est Roth qui est lucide ou est-ce que c'est Zweig qui manque de lucidité?
Écoutez, l'histoire nous aide à répondre à cette question. Roth a bien vu, a combattu avec autant d'acharnement le fascisme nazi que le totalitarisme stalinien. Roth a été de ce point de vue-là plus lucide encore que Romain Rolland, qui lui a choisi de défendre Staline. Il a rencontré Staline en considérant que c'était celui qui était à même de s'opposer à Hitler. Alors peut-être que Romain Rolland était plus réaliste dans les choses. Roth était plus visionnaire, pour reprendre un mot que vous avez utilisé.
Merci à vous deux, Pierre Dezus, Edmundo Gomez-Mango, pour cet éclairage sur Stefan Zweig, sa correspondance et ses rapports avec Freud. Tout de suite sur France Culture, la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, c'est la rentrée. Oui, d'accord, c'est la rentrée. Est-ce que tu as préparé ta poésie? Seigneur, je suis très fatigué, je suis né fatigué, et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent des esprits que l'aube vient chasser. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs et que l'usine sur l'océan des Cannes, comme un bateau ancré, vomit dans la campagne son équipage nègre. C'est un poème de Birago Diop, prière d'un petit enfant nègre, dédié à tous les mercredis du monde. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, aux messieurs comme il faut, mais moi je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries où sont les sacs repus que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune. Je préfère, vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés, écouter ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de compère Lapin et bien d'autres encore qui ne sont pas dans les livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus plus apprendre dans les livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici. Et puis, elle est vraiment trop triste, leur école. Triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds, qui ne savent plus compter les comptes aux veillées. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Reprenons-nous. Recentrons-nous grâce au poème. C'est de la poésie aussi de Jean-Pierre Verheyen du Top Manager. Je voudrais rappeler que le manager renforce les processus organisationnels du groupe. Moi, je trouve aussi. Le manager développe les paramètres qualitatifs du projet. C'est également mon avis. Il stimule les changements analytiques et clarifie les savoir-faire motivationnels. On ne saurait mieux dire. Il dynamise les résultats cumulatifs des bénéficiaires, c'est impeccablement exprimé. Il identifie les blocages institutionnels et révèle les besoins neurolinguistiques de la structure et des pratiques. Voilà qui est encore plus clair. Alors, au niveau du vécu, enfin, le top manager, oui, entre-temps, il a grimpé d'un grade. Le top manager programme les concepts analytiques qui interviennent dans le suivi de la démarche des acteurs sur le terrain. En période de crise, ni attentiste, ni chèvre-shootiste, le top manager qui se bat l'œil et la chic d'apprendre que le panier d'aménagère atteint des sommets catastrophiques, le top manager, calmement, recadre les paradoxes systémiques et les indicateurs opérationnels dans leur métacontexte. Oh oh! Oh oh, c'est qui est le chef? Ah, j'oubliais. S'il veut aller loin, le top manager doit ménager sa mouture. Bon, ses montures aussi, sa femme, sa limousine de fonction, etc. Mais, tout d'abord, sa mouture, sa parlure, et même son orature.
Les cibots vous entendent parler de Paradise Lost. Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé, dans la compagnie des auteurs. Merci à vous, Edmundo Gomez Mango. Merci également à vous, Pierre Dezus, pour cette heure passée ensemble autour de Stefan Zweig. Je signale la parution récente d'une édition de Légende d'une vie de Zweig que vous avez préfacé, Pierre Dezus. C'est aux éditions Étincelles. Signalons par ailleurs la correspondance Stefan Zweig-Romain Roland. Elle vient de paraître chez Albin Michel, bien que cette fois ce ne soit pas dans votre traduction, Pierre Dezus. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également nous rejoindre et réagir sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Dali Yaha. Merci à Corinne Amard, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Demain, quatrième et dernière étape de notre exploration de la vie et de l'œuvre de Stefan Zweig. Nous parlerons de l'Europe, Zweig l'Européen. Ce sera avec Serge Niemietz